Est-ce que cela vous a été difficile ou facile cette semaine de faire ce qui est droit, juste, bien? Est-ce que cela vous a été facile ou difficile cette semaine de maintenir votre témoignage chrétien au travail, à l'école, à la maison? Est-ce que cela vous a été facile ou difficile de parler sans irritation à votre conjoint, à vos enfants? Quand vous pensez à l'avenir qui se prépare pour nos enfants, est-ce que cela vous paraît facile ou difficile? Est-ce que ça vous a été facile ou difficile de venir à l'église ce matin? Si vous avez senti que certaines de ces activités sont plutôt difficiles que faciles, eh bien, nous allons comprendre pourquoi ce matin. Nous allons lire en Apocalypse, chapitre 12 et plus tard, chapitre 13. Mais notre texte va montrer pourquoi ces choses sont souvent difficiles. Il y a des choses qui se trament de manière invisible dans ce monde. Alors, lisons Apocalypse chapitre 12, mais nous allons tous basculer dans le style apocalyptique, très imagé, très symbolique, et on va essayer de comprendre cela, comment ça peut nous encourager dans notre quotidien. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière, la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, et se tint sur le sable de la mer. Nous sommes en guerre, dit Macron pour parler du Covid, mais ce mot convient encore plus à l'histoire de l'humanité. Notre monde, notre vécu s'explique mieux quand on sait qu'il y a une guerre entre le bien et le mal, quand il y a une guerre entre Satan et Dieu, et que tout n'est pas juste le fruit du hasard, et que le bien existe et le mal existe, et qu'il y a une guerre. Et comme toutes les guerres, ça dure maintenant plus longtemps qu'on aurait pensé, depuis Adam et Ève, et déjà le serpent, et ce qui a lancé les hostilités, eh bien cette guerre depuis beaucoup plus longtemps qu'on aurait pensé, qu'on aurait souhaité. Et il y a fatigue, il y a envie de baisser les bras. Vous êtes peut-être lassés des combats dans cette guerre. L'écrivain anglais Chesterton disait « Un aperçu du paradis sur terre, c'est de mener une bataille perdue et de ne pas la perdre. » Un aperçu du paradis, c'est de mener une bataille perdue d'avance et de ne pas la perdre. Et ce matin, j'aimerais vous faire vivre ce paradis. Le paradis, c'est mener une bataille perdue d'avance et de ne pas la perdre. Bien des fois, et de plus en plus, on dirait, être chrétien va sembler mener une bataille perdue d'avance. Quand on pense à cet énorme dragon et les bêtes que nous allons étudier dans le chapitre 13, et ces mots « guerre » et « combat », eh bien, des fois, être chrétien va sembler mener une bataille perdue d'avance. Mais ce livre, l'Apocalypse en général et ses chapitres, nous encouragent à tenir bon, à persévérer. Vous allez vaincre. C'est le grand appel de ces chapitres. Chapitre 12, on a lu un peu déjà, qui célèbre ceux qui ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et plus tard, le dragon s'irrite et fait la guerre contre la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans cette guerre, garder le témoignage, garder les commandements, retenir le témoignage, même si parfois, comme toute guerre, ça semble lassant et fatigant et perdu d'avance. Mais non, ce n'est pas perdu d'avance. Mais avant de plonger dans les détails assez fascinants de ce texte, j'aimerais vous donner quelques clés pour comprendre l'Apocalypse. Ça fait déjà quelques semaines que nous l'étudions. Nous commençons à nous habituer un peu au style de l'Apocalypse, mais c'est un style particulier, j'avoue. Peut-être vous débarquez dans notre église ce matin et vous avez entendu la lecture et vous dites « Oula, où suis-je tombé ? Ce sont des illuminés. C'est quoi ce langage ?» Mais pour comprendre l'Apocalypse, j'aimerais vous parler de deux choses, le style de l'Apocalypse et puis l'époque que cela traite. Tout d'abord, le style. Nous venons de lire un texte dans le style apocalyptique, qui est un style particulier. C'est un peu différent des évangiles ou des épîtres ou des psaumes. Ce style est très symbolique, très dramatique. Vous avez vu des dragons, chapitre 13 sera des monstres, des bêtes, il y a des aigles, il y a des étoiles, il y a des chiffres qui nous parfois un peu mystérieux. On verra le chapitre suivant, le 666, et ici on a vu 1260, et puis tout ça, c'est intriguant, c'est fascinant, c'est un peu bizarre comme style. Alors vous dites, ben ça parle de quoi tout ça? Ça parle de quoi? Je comprends rien. Je suis perdu dans ce livre. Déjà, ce qui aide, c'est que le symbolisme est quand même souvent expliqué. Là, il y a ce dragon qui est partout présent, mais le verset 9 dit, ce dragon, c'est Satan, le diable ancien. Là, on a toute la Bible qui nous aide à comprendre à qui c'est ce diable, cet accusateur, le Satan, ça veut dire accusateur. Donc, des fois, l'Apocalypse, le texte même, explique le symbolisme. Parfois, ce n'est pas expliqué dans le texte. Cette femme, cet aigle, ces étoiles, c'est pas tout à fait expliqué, mais on a le reste de la Bible pour décoder ces genres de symboles, notamment les livres de l'Ancien Testament, comme Daniel, comme Ézéchiel. Donc, si vous connaissez le reste de la Bible, ça aide aussi à interpréter, à comprendre le style de l'Apocalypse. Mais, ceux qui disent « je suis perdu », je vous crois pas tout à fait. En fait, vous comprenez plus que vous ne pensez dans ce style de l'Apocalypse. Je le dis parce que si vous êtes fan du cinéma, si vous êtes fan des contes de fées, vous n'êtes pas perdu du tout. Je vous donne un exemple. Chapitre 12, c'est il y a des étoiles, c'est des démons un peu, mais chapitre 12, c'est la guerre des étoiles. Chapitre 13, c'est les bêtes, l'Empire qui contre-attaque. Chapitre 14, c'est le retour du chevalier de l'agneau avec son armée. J'avais fait des points sans même s'en rendre compte. J'ai dit non, il faut que je change parce que c'est trop flagrant. La guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour de l'agneau. Je ne veux pas vous embarquer trop dans les Star Wars. Mais c'est l'histoire de l'Apocalypse. Les enfants aussi, eux, ils ne sont pas perdus. Ils savent bien que les sorciers et les monstres et les dragons existent dans ce monde. Eux, ils le savent bien. Parce que c'est une réalité spirituelle, en tout cas. Donc c'est vrai, Star Wars et les contes de fées ne sont pas historiques dans ce sens, mais elles captent quelque chose de vrai, de la réalité, parce qu'elles s'inspirent de la grande histoire, elles s'inspirent des textes bibliques, elles s'inspirent de la vraie histoire, cette histoire d'une guerre entre Dieu et le dragon. Et comme on a déjà dit pour résumer Apocalypse, le message c'est « tue le dragon, sauve la princesse ». Voilà ce que le prince, le roi fera. Et je me souviens une fois, je regardais, je crois que c'était un film de Star Wars, je regardais avec un ami, assez jeune, ado, et je dis, c'est pas réaliste, quoi. Il y a tous les méchants, ils sont si nombreux, ils sont si grands, ils ont cette étoile de mort, c'est si énorme, et puis une petite poignée, la résistance qui arrive quand même à gagner. Je dis, c'est pas réaliste, c'est jamais réaliste, une toute petite poignée contre un énorme empire, non, c'est pas possible. Et il me regarde, il me dit, mais tu parles, c'est la réalité, c'est toujours comme ça, une petite poignée qui mène une bataille qui semble perdre d'avance, mais qui va gagner, ça c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire de Apocalypse chapitre 12 et 13 et suivant. Et nous y sommes dedans aussi, dans un sens. Donc, ce style-là, avec des dragons, avec des princesses, avec des chevaliers, ne soyez pas trop perdus. C'est aussi le langage qui parle à votre cœur. Les jeunes, ils comprennent de suite. Peut-être ces textes-là sont plus faciles à comprendre que les épîtres, que les psaumes. Parce que voilà, ça, on aime ça. Les scorpions qui fument et qui, voilà, là, on comprend tout à fait ça. Ça nous aide à comprendre le monde spirituel. Donc, Apocalypse, même si c'est bizarre, pensez que ça peut aussi, ça nous fascine parce que c'est la vraie histoire. De manière, avec beaucoup de symboles, mais les symboles qui nous aident à mieux comprendre. Donc, le style, ne soyez pas trop perturbés par le style. Maintenant, la question de l'époque, de quand parle l'Apocalypse. Et ça, c'est plus difficile. Hein. De quoi parle l'Apocalypse? Oui, il y a beaucoup de symboles, mais la Bible nous aide à les interpréter. De quand parle l'Apocalypse? Donc, je fais un petit topo des grandes écoles d'interprétation de ce livre maintenant, rapidement. C'est peut-être pas le plus important, mais il va falloir connaître ça pour avancer dans notre étude de ce livre. Il y a trois grandes manières d'interpréter ce livre. Notamment la question de quand ça parle-t-il, quelle époque est concernée par l'Apocalypse. Certaines diraient que l'Apocalypse est principalement une description des événements de la première génération des chrétiens, notamment face à l'Empire romain, avec des applications pour toutes les générations à venir jusqu'au retour de Christ que tout le monde croit. Donc beaucoup diraient ce symbolisme, ce que nous avons lu ce matin, est principalement une description de la première génération de chrétiens face à l'Empire romain. Deuxième école, l'Apocalypse est principalement une description de la dernière génération des croyants, avec des applications pour toutes les générations qui la précèdent, mais l'Apocalypse traite surtout de la toute fin des événements qui se préparent pour la fin, le retour de Christ. Donc cela a un regard futuriste, les autres un regard un peu plus vers le passé. Et d'autres, une troisième école, c'est l'Apocalypse est principalement symbolique du présent, de toutes les générations. Un symbolisme très hautement symbolique, donc ça parle de toute l'époque de l'Église, de toutes les générations des chrétiens. Voilà, donc ça c'est les trois grandes écoles. Moi-même, j'ai une préférence pour la deuxième, celle qui voit principalement des prophéties vers la future. Mais quand vous en discutez dans les cellules, ne vous disputez pas trop sur les écoles d'interprétation. Ce qui est la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que les trois écoles arrivent aux mêmes applications en ce qui nous concerne aujourd'hui. Apocalypse est là pour encourager les chrétiens de toute époque, la première génération des chrétiens, la dernière génération des croyants, et puis toutes les générations entrent, à les encourager à persévérer face au mal, à encourager quand la bataille, quand la guerre semble perdue d'avance, à tenir bon, parce que le paradis, c'est qu'on mène une bataille perdue d'avance et on va la gagner, on va vaincre. Et donc, si la première génération des croyants pouvait garder les commandements et le témoignage face à l'Empire romain, si la dernière génération des croyants, des saints, va persévérer dans des événements assez dramatiques, eh bien, toute génération, qu'on soit la dernière, première génération, qu'on soit la dernière génération chrétienne, nous pouvons aussi persévérer, garder le témoignage, garder les commandements. Donc, oui, c'est une guerre qui semble perdue d'avance, mais je vous dis ce matin, vous allez vaincre, vous allez gagner, alors tenez bon. Et pour ça, on va suivre le chapitre 12 et chapitre 13. Le message de chapitre 12, je crois, c'est « N'ayons pas peur du dragon ». Et le message de chapitre 13, c'est « Ne soyons pas séduits par les bêtes ». On va découvrir le dragon et puis des monstres, des bêtes qui sont les outils du dragon. Donc tout d'abord, survolons le chapitre 12, « N'ayons pas peur du dragon ». Le chapitre 12 commence et nous donne une image pour comprendre déjà un peu la grande histoire de la Bible, comme je disais. Et ça commence avec un signe, cette femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et quand on creuse un peu l'Ancien Testament, et quand on lit les commentaires, voilà, tous sont d'accord que cette femme est un signe, c'est un symbole du peuple de Dieu, notamment le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et Israël en particulier avec ses 12 tribus, dont les 12 étoiles sur sa tête. Et puis ça renvoie aussi à les promesses que Dieu a faites à Ève, la femme, qu'elle aura une postérité qui va un jour écraser le serpent. Et donc, c'est vrai que l'histoire de l'Ancien Testament, en commençant avec Ève, et puis toute cette descendance, cette postérité, qui aboutit jusqu'à Marie, une autre femme, une femme juive. Voilà, c'est cette belle histoire de l'Ancien Testament, avec des hauts et des bas, avec des luttes contre le dragon qui veut éliminer ce peuple. Eh bien, on a cette Ève, et puis Marie. Et un jour, Marie met au monde un fils, Et cet enfant il dit enlevé vers Dieu. Alors c'est curieux parce que dans un verset, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu vers son trône. Donc dans une phrase apocalyptique, vous avez toute l'histoire de Noël et de Pâques. Donc c'est sûr, vous êtes un peu plus habitué à la crèche, aux bergers et des mages, et puis à la croix, à la crucifixion. Mais dans ce style, on est dans ce style très imagé, vous avez ce verset qui évoque tout, un peu l'histoire de Jésus, sa venue au monde qui passe par tout ce peuple de l'Ancien Testament, toute leur histoire, Marie, et puis la naissance, et la crucifixion, et la résurrection, et l'ascension, tout ça dans ce verset. Mais je m'appuie un peu sur l'image qu'il donnait, c'est ça qui est intéressant pour nous aider. C'est une femme en train d'accoucher avec un dragon qui guette pour dévorer. C'est saisissant, il n'y a rien de plus vulnérable une femme en train d'accoucher. Elle ne peut pas courir, elle ne peut pas échapper, elle ne peut pas fuir. Qu'est-ce que peut faire? Elle est faible, elle est fragile, elle est fatiguée. Et un dragon, un énorme dragon qui est là pour dévorer l'enfant... qui accouche, c'est là, c'est la bataille perdue d'avance. Et l'Ancien Testament raconte un peu ça. Le peuple de Dieu a souvent été faible, fragile, attaqué par le mal. Mais ce verset dit que le dragon et ses anges ne sont pas les plus forts. Verset 7, il y a une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Beaucoup pensent que ça évoque, oui, déjà la victoire de la croix, quand Jésus a été enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est passé par la croix, la résurrection, et cette victoire, déjà nous le savons, garantit la chute finale de Satan, la chute finale du mal. Déjà depuis ce moment, depuis la croix, Satan ne peut plus accuser les frères, nous accuser devant Dieu. Et ce qu'on célèbre ici, verset 10, « Maintenant le salut est arrivé, la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, et celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Depuis la croix, pour ceux qui sont en Christ, voilà, Satan ne peut plus les accuser. Ça, c'est encourageant pour nous dans ce combat. Quand vous pensez à toutes les choses difficiles de la semaine, peut-être même vos échecs, vos manières de succomber aux tentations de l'ennemi, même ça, ça ne tient pas, ces accusations. Elles ne tiennent pas. Il n'y a rien que Satan peut dire de vous. Il n'y a rien que Satan peut vous faire qui enlève votre salut. Si vous êtes en Christ, le salut est arrivé. Donc Jésus a toute puissance, toute autorité. Et il n'écoute même pas les accusations. Il ne peut pas les recevoir, les accusations de Satan. Cela ne veut pas dire que Satan est complètement disparu de la circulation. Depuis la croix, Satan sait qu'il a peu de temps, qu'il est déjà vaincu, que c'est perdu d'avance, mais il continue de faire la guerre au peuple de Dieu, donc cette femme, et sa postérité, dit la suite du chapitre. Donc, on arrive maintenant à un petit mot sur ces 1260 jours qui arrivent à plusieurs reprises. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Encore verset 14, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. » Donc, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Un temps, si on prend ça pour un an, ça fait 3 ans et demi, ce qui est exactement 1260 jours. Et puis, arrive aussi souvent dans l'Apocalypse, c'est une autre manière de dater ça en parlant de 42 mois. Donc, c'est synonyme 42 mois, 1260 jours et 3 ans et demi. Alors, c'est quoi tout ça? Déjà, ce chiffre permet de rattacher l'Apocalypse au livre de Daniel, que nous avons étudié ici en Église, mais Daniel, dans ses prophéties, lui, il divise l'histoire de l'humanité, l'histoire du salut. Il divise ça dans des périodes de 7. Donc, déjà, le 7 est très fort dans la Bible, très symbolique. Il revient souvent dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, Daniel divise un peu son schéma de l'histoire avec, dans des périodes de 7, 77, tout ça. Donc, ces chiffres reviennent souvent. Et une certaine importance est accordée dans Daniel, notamment à la dernière sept. Donc nous, on dirait le dernier chapitre de l'histoire dans la pensée juive. Il dirait la dernière semaine de l'histoire, dernier chapitre de l'histoire, dernière semaine de l'histoire. Et donc cette sept et ce dernier chapitre de l'histoire, cette dernière sept dans Daniel et dans l'Apocalypse est divisé en deux temps, 3 ans et demi, 3 ans et demi ou 1260, 1260. Que faire? Que penser de tout ça? Est-ce symbolique? Est-ce pas symbolique? Ça, c'est le grand débat en fonction de quelle école vous allez suivre dans mon introduction. Moi, c'est ce que je pense, mais d'autres pensent différemment. Moi, je dirais que ce chapitre établit déjà de manière symbolique, et ce chapitre établit un schéma qui se répète à travers l'histoire. Le peuple de Dieu, surtout dans son rôle de faire connaître le tueur de dragons, Jésus, le peuple de Dieu dans son rôle de faire connaître Jésus au monde, il est souvent menacé par le mal, mais toujours protégé par Dieu, d'une manière, conduit au désert. Et ça s'est fait, par exemple, en Égypte, quand le pharaon voulait éradiquer et tuer tous les enfants mâles. Dieu a protégé son peuple, il les a conduits vers le désert, en passant par les eaux. Plus tard, à Babylone, quand le peuple était là, il y avait les méchants qui voulaient massacrer tous les juifs. Il y avait Esther, et bien Dieu a protégé son peuple. Encore plus tard, à la naissance de Jésus, il y avait Hérode qui voulait massacrer les enfants, qui voulait tuer ce roi. Et bien Dieu a protégé son peuple. Et là, Marie et Joseph sont partis en Égypte, vers le désert pour quelque temps. Même les chrétiens français, par des moments de forte persécution, ont été engloutis par la terre dans les grottes des Cévennes. Et on peut aller aujourd'hui visiter le musée du désert pour le parcours des chrétiens français persécutés, les Huguenots, qui ont vécu aussi, en quelque sorte, cette même histoire. Donc ce schéma se répète au fil, même pendant toute l'histoire du peuple de Dieu. Et ce qui pourrait se faire dans l'avenir, c'est ce chemin se reproduit dans le chapitre final, dans la semaine dernière, d'après la manière de parler biblique, de l'histoire du peuple de Dieu, d'une manière intense, d'une manière future, d'une manière qui pourrait accomplir encore de manière forte ce texte. Le même schéma dans le passé et qui pourrait se reproduire. Voilà, ça me réconcilie avec les défis de l'interprétation du texte. Mais ce que je retiens pour nous dans cette guerre, c'est que notre mission, c'est toujours de garder les commandements, de retenir le témoignage de Jésus. En tant qu'enfant, un de mes cantiques préférés, parce que c'était en do, facile à jouer, sans bémol, sans, c'était le signal de la victoire. C'est un vieux cantique, les strophes disent, Satan, prince de ce monde, redouble ses coups, notre faiblesse est profonde, que deviendrons-nous? Le combat est long peut-être, élevant nos cœurs, avec Jésus notre maître, nous serons vainqueurs, qui rime avec cœur. Ah, ça c'est le mot d'ordre, ça c'est le mot de mission pour toute génération. La première génération des chrétiens ont vécu des choses fortes avec les armées romaines qui ont envahi la Jérusalem. Ils ont dû fuir, ils ont été protégés par Dieu. La dernière génération des chrétiens aussi pourrait vivre des choses fortes avec ce dragon, ces bêtes que nous allons voir maintenant. Mais nous tous, nous pouvons ne pas avoir peur du dragon. Il est vaincu. Dieu nous protège de ses attaques. Et il n'aime pas, il déteste les chrétiens et il déteste les bébés, les naissances. On avait ce que ça leur rappelle que voilà, cet enfant qui est né est devenu son vainqueur. Mais nous serons vainqueurs. Nous avons déjà vaincu par la croix, nous rappelle le chapitre 12. Passons maintenant au chapitre 13. Ne soyons pas séduits par les bêtes. Souvent, dans une guerre, les choses s'empirent avant de s'améliorer. Et là, on arrive dans le schéma de l'Apocalypse, on arrive à une étape marquante. Pour sa dernière offensive, le dragon, il sort deux armes féroces de ces deux monstres, ces deux bêtes du chapitre 13. Donc maintenant, je vais vous lire le chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête et disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui faut donner d'animer l'image de la bête, afin qu'une image de la bête parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou leur front, que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà encore tous ces symbolismes qui nous intriguent, qui mystifient parfois. Mais si vous prenez déjà le décodeur de la Bible, de Daniel notamment, là, le livre de Daniel dans l'Ancien Testament, déjà vous allez savoir que les bêtes, c'est un peu monstrueux, c'est des mélanges léopard, lion et ours. Donc déjà c'est assez monstrueux comme bête. Léopard, la vitesse, ours, la force, lion, qui déchire, violent. Mais avec Daniel, nous savons que les bêtes sont symboles des puissances politiques, des gouvernements, souvent avec quelqu'un à la tête, un empereur, un roi. Donc déjà, quand on lit ce chapitre, ça fait un peu penser à Nebuchadnezzar, ce roi de Babylone, dont souvent les images étaient des moitié lion, moitié machin. Et Nebuchadnezzar, quand il était empereur, avant d'être rappelé, repris par Dieu, lui, il a obligé tout le monde à adorer une statue de sa personne. Donc on retrouve un peu les mêmes comportements des rois, des empereurs, de ceux qui se prennent pour Dieu à travers l'histoire. Donc Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, ça fait penser un peu à ça. Et Daniel l'a décrit comme lui, et les empires qui ont suivi comme des bêtes. Ça fait penser, oui, beaucoup à l'empire romain du temps des premiers chrétiens. D'ailleurs, ils voient cette bête avec six têtes et 10 cornes. C'est vrai que Rome avait 7 collines. Il y a peut-être eu une succession de 10 empereurs. Certains l'interprètent ainsi. Mais c'est sûr, ils pouvaient penser à ça. Les empereurs romains qui proféraient des blasphèmes dans le sens qu'ils se prenaient pour Dieu, ils obligeaient un culte. Et les premiers martyrs chrétiens, c'est ceux qui refusaient de reconnaître, de participer à ce blasphème, de dire que l'empereur, comme Néron par exemple, était Dieu. Donc déjà à l'époque, le peuple de Dieu refuse, au prix de leur vie, d'adorer la bête qui serait un empereur, un empire. Et il me semble que nous pouvons aussi voir dans cette bête, si on suit en tout cas l'école qui voit aussi des choses à venir dans l'avenir, dans le futur, nous pouvons aussi voir dans cette bête, je dirais, un dernier déchaînement du mal, une dernière incarnation du mal dans un dirigeant politique mondial que le reste de la Bible va souvent appeler l'Antichrist. Un homme, mais plus qu'un homme, tout un système anti-Dieu, politique, financier. Tout cela peut nous paraître alarmiste ou complotiste de parler comme ça, mais je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, l'Europe a produit un Hitler qui était un monstre féroce, une bête qui a séduit toute une génération et qui s'est comporté beaucoup comme chapitre 13, avec des persécutions des croyants, avec une adoration obligée, une jeunesse qu'il a embarquée à suivre, voilà, tout ce mal qu'il a fait, l'attaque contre le peuple de Dieu, même le peuple juif. Donc c'est pas si lointain pour nous Européens, et ce genre de description, voilà, c'est pas si étranger finalement. Donc cette bête, cet antichrist, la première bête qui représente un pouvoir politique, je dirais, se présente justement comme un messie admirable. On dit antichrist parce qu'il va aussi imiter Christ dans beaucoup de domaines en se présentant comme un sauveur du monde. Pas le sauveur du monde dont on a chanté, mais un sauveur du monde. On voit, il vit, verset 3, « Je vis l'une des têtes qu'on blessait à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Donc il va simuler une résurrection, tout comme celle de Christ. Est-ce que là, c'est symbolique d'un regain de pouvoir, comme un empereur peut partir et revenir, un roi peut partir et revenir, et retrouver le pouvoir? Une espèce de résurrection, peut-être c'est pas assez fort comme image, ou est-ce que c'est un artifice des médias? Ce qui est flagrant, c'est aujourd'hui, on a déjà ce qu'il faut. On pourrait assez facilement simuler une résurrection sur les écrans et tromper des gens. Ou est-ce que c'est une résurrection, est-ce que vraiment quelque chose encore plus littéral, plus miraculeuse, fait par les puissances du mal, je ne sais pas. Mais voilà, cette bête qui sera admirée, donc dans un premier temps, il va peut-être pouvoir séduire les habitants du monde entier. C'est vrai que si aujourd'hui on offrait une solution à tous les problèmes du monde, on faisait la paix au Moyen-Orient, on réglait plein de choses, il y aura quand même une admiration, un désir de suivre une telle puissance politique. Et cette bête pousse à adorer le dragon et à persécuter les chrétiens. Ce qui est assez dramatique, verset 7, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Encore ce moment devient encore plus dramatique, la bataille semble vraiment perdue d'avance. Mais il n'y a pas que ce monstre-là, il y a un autre pour encore empirer la situation. Verset 11, il vit une deuxième bête. Et cette deuxième bête, il dit, ça ressemble à un agneau qui parle comme un dragon. Donc, un bête qui ressemble un peu à Jésus, mais qui parle comme Satan. Déjà inquiétant. Et autant la première bête semble représenter un pouvoir politique, comme on trouve dans Daniel, autant cette deuxième bête pourrait représenter un pouvoir religieux, parce que dans d'autres passages, il est appelé le faux prophète. Donc, l'antéchrist est le faux prophète. Et on voit, quand on lit un peu la manière qu'il pousse à l'adoration de la première bête et du dragon, on voit qu'il représente un pouvoir religieux, peut-être l'organe de propagande qui pousse à cette nouvelle religion. Voilà ce qu'on peut y voir dans cette deuxième bête. Et puis le chapitre termine avec cette fameuse marque de la bête et le chiffre de la bête 666 qui a intrigué tous les chrétiens de tous les siècles. On peut déjà remarquer et se rassurer que cette marque est une imitation déjà de, comme tout ce que fait la bête, c'est imiter Christ, mais moindre, mais pas en vrai. Et on peut remarquer que cette marque est une imitation de Christ qui marque les siens d'un sceau. On a déjà vu ça dans d'autres chapitres. Si le texte est devant vos yeux, vous l'avez en chapitre 14, verset 1. Ceux de l'agneau, cette armée de l'agneau est déjà marquée le front par Christ. Et donc ce parallèle entre les deux marques, la marque de la bête, la marque de l'agneau, pousse à nous aider à comprendre cette marque de manière symbolique, comme une appartenance spirituelle. Il y a ceux qui appartiennent au dragon et ses bêtes, il y a ceux qui appartiennent à Jésus, et ça c'est une réalité à travers les siècles. Cela implique aussi l'impossibilité pour un vrai croyant de recevoir cette marque, puisqu'il est déjà marqué par l'agneau. Mais bien sûr, ces marques rappellent que la neutralité n'existe pas et que si les choses s'intensifient dans les fins des temps, il y aura une vraie tri. On ne pourrait pas jouer aux Suisses ou dire on est neutre dans cette guerre. Non, il y a ceux vraiment qui appartiennent à l'agneau, persécutés, les autres qui se laissent séduire par le système du mal et la bête. Et puis le 666, encore, bon là, certaines peuvent, c'est vrai que les gens essaient de jouer, comprendre ce que ça veut dire le 666. Vous pouvez prendre les lettres et accorder des valeurs numériques à des lettres, c'est ce qu'ils faisaient des fois en hébreu ou en grec. Donc certains ont joué avec ça. C'est vrai, je crois que c'est César Néron en hébreu. Vous prenez les lettres, vous trouvez les chiffres qui correspondent, vous additionnez, certains ont trouvé 666, donc c'est possible que c'est un code pour parler de quelqu'un comme ça. On est dans ce livre d'Apocalypse où les chiffres sont très symboliques, donc le 7 est très présent pour rappeler la plénitude, pour nous pointer vers Dieu. Jésus est celui qui avec les 7 yeux et qui dévoile son plan sur les séries de 7. Et donc ce 6 rappelle ce dragon et cette bête qui veulent imiter Christ, qui se présentent comme un sauveur, un messie, mais qu'ils ne le sont pas tout à fait, ils n'arrivent pas, ils sont moindres. Donc tout ça, là je ne peux pas vous dire plus sur ce que veut dire 666 ce matin. En tout cas, quelqu'un pourrait dire, ces bêtes ne nous concernent pas, c'est que pour les croyants de la fin, on n'y est pas encore dans tout ça. Oui, mais elle nous montre quand même les méthodes typiques de Satan dans tous les âges. Cette manière de vouloir imiter un sauveur, cette manière de proposer un faux salut par les idoles. Il y a cette fausse trinité qui est le dragon et la première bête et la deuxième bête. Et cette manière de pousser à une adoration de masse, à manipuler les informations, pousser à une pensée unique, pousser à encourager des gouvernements totalitaires. Ça, c'est les méthodes de Satan à travers les siècles. D'abord, séduire pour que tout le monde se rejoigne tranquillement. Tranquillement, c'est projet totalitaire. Et ceux qui résistent, c'est faire opposition ouverte. Et donc, entre la séduction et l'opposition ouverte, oui, nous voyons ça à travers l'histoire de l'homme. Donc, ça nous aide, nous, chrétiens, déjà comprendre les méthodes de Satan et pouvoir discerner aussi quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et puis, ça nous aide aussi à ne pas se décourager. On connaît déjà la réponse, nous, chrétiens, sur la question qui vaincra. Mais parfois, le dragon semble très présent. Parfois, les choses pourraient s'empirer avant de s'améliorer. Et il ne faut pas perdre de vue ce que nous savons de l'histoire finale du vainqueur qui est en Christ. Je termine, je vous laisse ces encouragements à encore vivre, garder le témoignage et la foi chrétienne. Récemment, ils ont sorti un film de guerre, 1917. Et ce film 1917, c'est l'histoire de deux soldats, deux frères qui doivent livrer un message. Donc, ils doivent garder le commandement de leur capitaine et retenir le témoignage, ce message, pour le faire livrer à quelqu'un. Et donc, ils doivent traverser une scène de guerre, ils doivent traverser les fronts. Les scènes sont apocalyptiques même, avec toutes ces morts. Et il y a des combats, il y a des défis. Les deux frères, ils perdent l'un des frères. Donc, il doit encore continuer malgré la mort de son frère, de son compagnon. Et ce qui est intéressant, c'est que le film a remporté un Oscar pour sa mise en scène, notamment parce qu'ils l'ont fait d'une seule prise. C'est ça qui est fort avec ce film. C'est une seule prise de caméra. La caméra ne s'arrête jamais. Peut-être deux prises, mais on vit tout ce film, donc ce voyage, ce parcours, cette mission des soldats, on le vit sans que ça coupe jamais. Et au début, on se rend compte, puis on sent, et il y a un effet, et on sent que c'est long, ça dure, ça pèse, les obstacles ne s'arrêtent jamais, et on se dit, mais est-ce qu'on va arriver? Et même la manière qu'ils ont fait la cinématographie et véhicule ce message assez fort. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gagné l'Oscar. Mais ça capte aussi ce sentiment que nous avons, ce sentiment de fatigue des fois, que ce besoin de persévérer. Et ces textes-là, de ces manières très symboliques, nous aident ce matin à le faire. La foi et la persévérance, c'est notre mission aussi. Quels sont vos combats? Est-ce que vous voyez le dragon et essayer de vous décourager? C'est ici la foi et la persévérance des saints. Voilà ce que nous avons. Persévérer dans un mariage, des fois, ça demande de l'effort, ne pas écouter les tentations, les séductions du dragon. Persévérer dans un service chrétien quand il y a des obstacles, quand ça ne marche pas, quand il semble que le mal remporte. Persévérer dans la connaissance, la lecture de la Bible, des fois ça aussi c'est fatigant, mais c'est avec cette connaissance de la Bible qu'on va discerner ou déjouer les techniques des dragons et des bêtes. Persévérer dans une vie d'église, persévérer dans la foi. Voilà ce que je vous appelle à faire. Soldats du Seigneur, vous allez réussir. Vous allez vaincre, tenez bon encore jusqu'au retour de Christ.